La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Aujourd'hui, nous parlons de l'œuvre d'un artiste qui donna autant de poids aux nuages qu'aux personnages terrestres qu'il représenta. Autant de flammes aux seins bientôt consumés qu'aux éclats qui dans le ciel devaient manifester des interventions divines. Il s'appelle Domenikos Theotokopoulos. Il est né en Crète en 1541 et après Venise et Rome, il s'installe à Tolède où il meurt en 1614. Vous le connaissez mieux sous le nom du Gréco. Il a inventé des formes, une œuvre, un monde qu'on ne devinait pas auparavant et dont l'écho se fit sentir jusqu'aux Demoiselles d'Avignon de Picasso en 1907 et dont l'écho résonne peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui dans l'atelier des peintres nos contemporains. Et pour en parler, je vous propose de rencontrer Guillaume Kienz, le commissaire de cette exposition extraordinaire qui se tient au Grand Palais, qui fut le directeur des collections espagnoles du Louvre et qui aujourd'hui est le directeur des collections européennes au Kimball Art Museum de Fort Worth au Texas. Cher Guillaume Kienz, j'ai sans doute écorché vos fonctions antérieures, mais vous aviez fait une exposition Velázquez absolument inoubliable. Cette fois-ci, c'est le Gréco. C'est une aventure espagnole d'une différence considérable.
Considérable. D'abord, j'ai beaucoup de chance parce que
c'est incroyable.
Passer d'un grand maître à l'autre comme ça, c'est vraiment un privilège gigantesque et impressionnant.
Vous savez que ça divise les artistes. La moitié des artistes d'aujourd'hui sont Velázquez et l'autre moitié sont Gréco et c'est pas les mêmes. Et vous avez réussi à aimer les deux.
J'ai réussi à aimer les deux. Alors d'abord, la position de l'historien d'art est un peu plus facile puisque non seulement on peut se réfugier derrière la neutralité, mais on est censé regarder ça avec une neutralité historique, même si c'est évidemment pas toujours possible. Mais il y a un lien malgré tout entre Velázquez et Gréco. Ce sont deux artistes qui sont très différents. Il y en a un qui se dédie complètement corps et âme à la peinture et l'autre que la peinture finit par embarrasser un tout petit peu. Le premier, c'est Gréco, beaucoup plus sincère dans son rapport à la peinture. Velázquez va avoir un peu des difficultés. Disons qu'il va préférer la carrière de courtisan et de haut fonctionnaire que celle de peintre. Mais c'est un hasard de calendrier, j'ai envie de dire. L'année dans laquelle Velázquez entre dans l'atelier de son maître Pacheco à Séville, c'est le moment où Pacheco va visiter Gréco à Tolède. Donc le jeune Velázquez, à peine arrivé dans l'atelier de Pacheco, il doit entendre parler de Gréco tout de suite.
Parce que donc il y a un écart de combien d'années entre les deux, à peu près une quarantaine d'années?
Alors c'est-à-dire que Velázquez naît en 1599 et Gréco meurt en 1614. Et Tolède à l'époque est une grande capitale des arts. Donc ils sont pas contemporains, mais ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont entendu parler l'un de l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Velázquez a entendu parler de Gréco. Le contraire est moins certain, évidemment.
Alors Gréco, on imagine que c'est le grand peintre espagnol. En fait, non, c'est le grand peintre crétois, beaucoup plus influencé au début de sa carrière probablement par l'Italie. Mais le peintre crétois apparaît dès le début de votre incroyable exposition, dans lequel vous avez réuni près de 70 œuvres, un peu plus de 70 œuvres d'ailleurs du Gréco, sur un corpus qui représente quoi?
Alors, la délimitation du corpus de Gréco est très compliquée parce qu'il avait un gigantesque atelier qui a beaucoup produit, que ses œuvres ont été dispersées dans le monde entier et il faudrait vraiment faire un gros travail de catalogation de cette production qui est en cours d'ailleurs par ma collègue du Prado. Mais après, on se dispute toujours entre historiens de l'art, on a des visions plus ou moins restrictives du corpus de l'artiste. Moi, je considère vraiment qu'il ne faut donner à Gréco que ce qui est vraiment la quintessence de la qualité, de l'inventivité, etc. Il peut faire des répliques autographes, mais on le voit, à mon avis, tout de suite. D'autres sont plus généreux et mettent des tableaux que moi je considérais plutôt Gréco et atelier, ou c'est-à-dire produits par l'atelier et retouchés par le maître. Donc alors, c'est difficile à compter.
Alors on va parler évidemment du sillage de Gréco, de sa vie très particulière et de sa position trilinguiste, si je puis dire, parce que au fond, il est trilingue, mais on va voir ce que ça veut dire, on va chercher ce que ça veut dire ensemble. Mais puisque vous évoquez la question de l'atelier, il y a deux aspects qui sont mystérieux parmi mille autres. C'est qui a fait les tableaux de la période de Tolède, est-ce que c'est Gréco, est-ce que c'est Gréco et l'atelier, qu'est-ce que ça veut dire l'atelier de Gréco à cette époque-là? C'est la première question que je voulais vous poser. Et d'autre part, dans l'exposition, il y a, au début de l'exposition d'ailleurs, un petit groupe de tableaux très extraordinaires qui sont des petits tableaux qui donnent la sensation d'être en quelque sorte le catalogue des œuvres de Gréco. Et j'aimerais bien que vous nous parliez aussi de ces deux, cette deuxième chose. Je vous ai posé deux questions, je suis désolé, c'est trop d'un coup.
Non, non, mais elles sont très liées. D'abord, la question de l'atelier, finalement, c'est assez simple chez Gréco. On a tendance à voir Gréco avec un œil moderne, donc profitons de cette ouverture qu'on a vers l'artiste. Pour moi, Gréco, c'est comme un styliste de mode. Il a une collection haute couture et il a une collection prêt-à-porter. Le Gréco que nous exposons au Grand Palais, en dehors de deux tableaux qui parle justement de l'atelier, c'est le Gréco haute couture. C'est des inventions incroyables, des changements d'idées, des variations faites par l'artiste lui-même, comme un styliste qui changerait une mode ou qui déchirerait un vêtement pour le recommencer immédiatement. Et puis après, il y a la collection prêt-à-porter. Et ça, c'est l'atelier qui s'en charge. Et c'est nettement moins intéressant parce que c'est moins beau, c'est moins fort. Donc c'est qu'on appelle ça déceptif. Donc, en fait, comment est-ce que cela marche? Ça marche justement à travers des petits tableaux, enfin des tableaux de petit format sur toile. Parce que Gréco, ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il a fait une invention, il va demander à son atelier d'en faire une réduction peinte sur toile. Et tout cela, il va le conserver dans une salle qui s'appelle la Quadra, une sorte de showroom. Et c'est là-dedans qu'il recevra ses commanditaires, ses clients, et qui vont lui dire, bien écoutez, j'aimerais une madeleine de 1 mètre sur 1,50, de cette formule-ci. Et Gréco, selon le prix et selon les délais, son occupation interviendra plus ou moins dans l'œuvre ou demandera entièrement à son atelier de le faire. Et ça, on le sait parce que justement, Francisco Pacheco, toujours le même, ce maître de Velázquez, visite en 1611 l'atelier et décrit cette salle, décrit la Quadra où il y a en miniature toutes les inventions de Gréco. Mais alors attention, et c'est là que je bifurque sur la deuxième question, les premiers petits tableaux que l'on montre dans l'exposition ne sont pas de cette catégorie-là. Ils ne sont pas sur toile, ils sont sur bois. Et c'est un Gréco qui est en train de se former et qui est en train d'apprendre le langage de la Renaissance. Pourquoi sont-ils de petit format et pourquoi sont-ils sur bois? D'abord parce qu'en tant que peintre d'icônes, le bois c'est son support de prédilection, l'icône c'est sur bois, et que en tant que peintre inconnu en Italie, eh bien il n'a pas accès aux grandes commandes, donc il travaille pour un marché, donc c'est du petit format.
Alors, vous avez lancé l'affaire peintre d'icônes, il faut absolument qu'on parle de la genèse du personnage qui va être... parce que ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est les mutations de Gréco. Et au fond, dans l'exposition, il y a d'ailleurs quelque chose qui est fascinant, j'ai trouvé, c'est la juxtaposition des tableaux de périodes très différentes et qui permet de se rendre compte de la façon dont la langue évolue et dont de nouvelles... il invente ou il s'approprie de nouveaux langages. Alors, tout ça commence en Crète. À ce moment-là, c'est un iconographe.
C'est un iconographe, il naît aux environs de 1541, on ne sait pas exactement. On a un document en 1563 qui dit qu'il est maître peintre d'icônes, donc il est établi en 1563. Et oui, il se forme dans cette première tradition, qui est la tradition de l'icône byzantine, qui est une tradition qui prône ceux qu'il va refuser d'une certaine manière, puisqu'elle prône la disparition du style personnel de l'artiste au profit de l'image sainte et uniquement de l'image sainte, et elle prône la fidélité au prototype préexistant au détriment de l'invention.
Mais c'est dingue, parce que cette période-là est tellement le contraire de ce que vous dites qu'il l'a refusé, et en effet, c'est tellement le contraire de ce qui va devenir, parce que on est dans un climat, détrompez-moi, on est dans un climat en Crète, évidemment d'influence byzantine, mais où il y a une connaissance néanmoins de ce qui s'est passé à la Renaissance. C'est une sorte de perfection byzantine corrompue.
C'est exactement ça. La Crète est sous domination vénitienne, donc il y a des tableaux vénitiens qui arrivent en Crète, des gravures européennes évidemment qui arrivent en Crète. Il y a une société occidentale qui cohabite avec une société hellénique en Crète. Donc il naît vraiment dans cette double culture. C'est un artiste de strates, c'est un artiste de superposition de culture et de paradoxe, ce qui ne simplifie rien. Et les deux premiers tableaux de l'exposition, le Saint-Luc peignant la Vierge et l'Adoration des mages, tous les deux du musée Benacchi, montrent...
Le musée Benacchi à Athènes.
À Athènes.
Pardon, merveilleux, oui. Musée d'art byzantin.
Montre à la fois une icône dans un style complètement byzantin et un tableau hybride qui a encore une technique de l'icône mais qui déjà prend des gravures européennes. Et sans doute, il pouvait peindre l'un et l'autre au même moment dans cette culture mélangée.
Alors là, je dois dire que dans votre catalogue, dans votre introduction, qui est un texte absolument fantastique, il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir parce que et qui évoquent ces problématiques. D'abord, il y a la question de l'icône faite de la main de Dieu, puisque normalement, faire une icône, c'est, vous l'expliquez, c'est exactement le contraire de faire quelque chose qui soit lié au soi. Hein, elle est faite, elle est kairopoietes, elle est faite de la main de Dieu. Et puis, cet artiste va aller vers lui-même, en quelque sorte. Et vous faites, à ce moment-là, une interprétation de la façon dont il représente la première œuvre qui est dans l'exposition, le Saint-Luc. Il représente Saint-Luc peignant la Vierge. Pouvez-vous nous remettre ça un peu en tête?
Alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, il représente Saint-Luc peignant la Vierge. Et donc, on a dans le tableau un autre tableau. Saint-Luc est assis derrière un chevalet. Sur ce chevalet, il y a une icône qui est une icône byzantine, complètement byzantine, un prototype traditionnel de la Vierge à l'enfance, qui serait l'icône miraculeuse que Saint-Luc aurait peint, mais qui aurait été terminée par une main d'ange, hein, c'est donc ce Akéropoïète fait de main d'ange, non fait de main humaine. Cependant, Gréco tout de suite montre là où il veut arriver, c'est-à-dire qu'il y a un ange qui est présent, qui porte un phylactère dans lequel il est écrit que l'auteur est Saint-Luc, d'une certaine manière, donc revendication du statut d'auteur pour Saint-Luc, donc pour le peintre, donc pour la peinture, et ce même ange, on le voit, tend une couronne de laurier vers Saint-Luc. Donc le laurier, c'est la tribu du poète. Le poète, poietos, c'est le créateur. Donc il y a une tension entre une œuvre qui est effectivement une œuvre divine, qui peut être une icône magique, surnaturelle par la suite, et un vrai statut d'auteur. Et Gréco signe cette œuvre sous la boîte de couleurs, le long du banc, Cher Dominicus, fait par Dominique. Donc il y a une identification à Saint-Luc et une revendication dès cette première icône de la légitimité de la création artistique. Ce n'est pas neutre dans un contexte où l'iconoclasme est latent dans le monde byzantin. On a détruit la figure de Saint-Luc, on ne voit plus Saint-Luc, elle a été victime d'iconoclasme, et la figure et la légitimité du métier d'artiste en tant que créateur. Donc là, on voit très bien que déjà, il regarde ailleurs. Déjà, il regarde vers une, je vais dire une culture plus généreuse, parce qu'il ne faut pas opposer les cultures, mais il regarde vers une culture qui laisse plus de place et moins de modestie à la figure de l'artiste.
Et alors on devine déjà des efforts de perspective, on n'est donc plus dans le monde plat et le monde idéalisé de l'icône byzantine. On arrive dans un monde réel, et ce monde réel, il va essayer de s'en rapprocher, si j'ai bien compris ce que vous nous avez raconté, en allant à Venise.
Exactement. Alors, d'abord, il se souviendra toujours qu'il est un peintre byzantin, et il va réutiliser des trucs de peintre d'icônes dans la suite de sa carrière.
Qu'est-ce que c'est un truc de peintre d'icônes?
La perspective inversée, par exemple, l'idée que la perspective n'est pas forcément à l'italienne avec un point de fuite au fond, mais que le point de fuite peut se trouver dans l'espace du spectateur et que du coup les tableaux sortent vers le spectateur. C'est le cas du cardinal, du métropolitain, c'est le cas de toute une série de tableaux, la Vierge du musée de Strasbourg, très forte, très byzantine. Voilà, il se souvient toujours qu'il est byzantin. Et l'autre chose, c'est que il défend l'art byzantin, malgré tout. L'art byzantin, c'est l'art des Grecs, c'est l'art des anciens, c'est l'art de l'Antiquité. Donc pour lui, il est, en tant que peintre d'icônes, il est beaucoup plus légitime en tant que peintre grec. Il est l'héritier légitime de la grande tradition de la peinture qui est racontée par Pline dans son Histoire naturelle.
Donc c'est l'artiste antique qui apparaît.
C'est l'artiste antique qui va à la conquête de la peinture moderne à l'époque, puisque c'était et il en veut beaucoup à Vasari. Quand dans ses vies, Vasari dit que c'est Giotto qui a enfin libéré la peinture de toutes ces choses grecques, de cette manière grecque. Pour Gréco, la manière grecque, c'est la fameuse manière antique, et lui il comprend pas comment est-ce que la Renaissance peut vouloir prétendre redécouvrir l'Antiquité et en même temps critiquer cette manière grecque.
Alors, donc, il arrive à Venise, évidemment, Venise, c'est Titien, j'imagine, Tintoret aussi, mais Titien, je pense, a un rayonnement à cette époque considérable.
Titien règne absolument sur la Sérénissime. Gréco se réclamera le disciple de Titien, on ne sait pas du tout si c'est vrai.
C'est publicitaire, si je puis dire.
C'est une manière de, une adhésion à une esthétique.
C'est une identité, en fait.
C'est une identité esthétique qu'il se donne. Son art a, parfois, est plus proche de celle de Tintoret. On se demande même s'il n'a pas été dans l'atelier de Tintoret, parce qu'il a des pratiques d'artistes dont on sait qu'elles existaient dans l'atelier
de Tintoret. Une apparente vitesse parfois, hein, la semblance de la vitesse de Tintoret.
Exactement, c'est un peintre dont les plis, dont les figures, dont les couleurs ne s'arrêtent jamais. Il y a une électricité qui traverse sa peinture qui est absolument phénoménale. Et ça, évidemment, ce dynamisme, il le voit chez Tintoret et Tintoret l'inspire.
Mais quand il arrive à Venise, il y a quand même un tel décalage, bien que la place Saint-Mars ait quelque chose de byzantine, et en particulier évidemment la basilique. Il y a un tel décalage entre son travail et le travail des grands maîtres de l'époque qu'il on le reçoit comme un provincial. Comment ça se passe?
Mais il est provincial. La Crète, c'est la province et Venise, c'est la capitale. Donc il va monter à la capitale. Et là, ce qu'il ne va pas vouloir, c'est se cantonner d'une clientèle grecque, d'une clientèle crétoise qui existe à Venise. Il veut pas être ce qu'on appelait les Madoneros, ces peintres de Madone à la chaîne pour satisfaire les dévotions ou les goûts nostalgiques. Patriote de cette communauté hellénique qui existe à Venise, lui, il va vouloir concurrencer les peintres de la Renaissance sur leur propre terrain. Et vous parliez de langue tout à l'heure. La langue, c'est un vrai problème pour lui. Il parle le grec, évidemment, c'est sa langue. Il signera d'ailleurs toujours en grec. Mais il va aussi devoir apprendre le vénitien, qui n'est pas l'italien, devoir apprendre l'italien, qui ne parlera jamais correctement, l'espagnol, qui ne parlera jamais correctement. À chaque fois, il va devoir se réinventer, se réintégrer. Et d'une certaine manière, la seule langue qu'il réussira à parler, c'est la peinture, et il va se la forger.
Mais donc, il parle son langage, c'est une écriture, c'est une peinture byzantine. Il va découvrir une peinture vénitienne et il va passer 2 ans à Venise à peu près, non?
À peu près, il arrive vers 1566, 1567, donc un peu plus, ça dépend comment on compte. Et il serait à Rome dès 1570.
Mais comment savez-vous qu'il était à Venise, par exemple?
Parce qu'on a un document qui, pour le coup, en 1567, qui le documente à Venise, et on suppose qu'il a pu arriver un tout petit peu...
Et de quoi vit-il pendant ce temps-là?
Alors ça, c'est une bonne question. Il vit certainement de toute une série de productions dont une partie est présente dans l'exposition pour les appuis grecs qu'il pouvait avoir dans la Sérénissime. Aussi, on le voit, le document qu'il mentionne, le mentionne en lien avec un commanditaire qui demande des dessins ou qui demande des plans. Donc voilà, il sait dessiner, il sait tracer des traits. Peut-être a-t-il eu une première carrière pour manger, pour la soupe, de traceur de plans, de traceur de cartographie, etc. La cartographie est pas mal aux mains des Byzantins à ce moment-là à Venise. Donc ça a pu lui servir. D'ailleurs, le mot dessin en grec, que je serais bien incapable de prononcer, mais c'est le même mot que pour dire plan, que pour dire carte. Donc ça, c'est pas...
Voir le fameux Portulan, la fameuse vue de Tolède, sous un autre angle, ce que vous dites. Parce qu'un des tableaux les plus célèbres, les plus commentés, évidemment, du Gréco, c'est cette étrange vue de Tolède où un jeune homme l'indique comme ça. C'est un tableau qui n'est pas dans l'exposition.
C'est un tableau qui est au musée Casa del Greco, qui est un tableau trop fragile, qui n'est jamais prêté, malheureusement, aux expositions.
Mais très étrange.
Mais très étrange, et effectivement, cette assimilation linguistique entre ce que c'est qu'un plan, ce que c'est qu'un dessin, et en italien, dessin disegno, c'est autant le dessin qu'on trace que le dessin qu'on a en tête, donc le projet, ça fait sens dans une ville qui finit par être son espace mental.
De là, il va chercher à triompher. Il part de Venise. Pourtant, on imaginerait que l'extraordinaire floraison artistique de Venise pourrait le satisfaire. Et il va aller à Rome.
Il va aller à Rome parce que Venise est une petite ville qui a déjà beaucoup d'artistes. Titien est vieux, mais il est encore vivant. Tintoret est actif, Véronèse est actif, Palma, Paris Bordone, les Bassano. Enfin,
il y a trop de peintres.
Et lui n'arrive pas à trouver sa voie. Et par ailleurs, il voit aussi des perspectives qui s'ouvrent dans d'autres horizons. On est au lendemain du Concile de Trente. Le Concile de Trente termine en 1563. L'Église dit qu'il faut des nouvelles images. L'Église, c'est Rome. Donc l'Église se réforme, y compris physiquement, avec des nouveaux chantiers, etc. Donc il se dit, tiens, à Rome, j'aurai peut-être du travail, à Rome, je vais peut-être y arriver, parce qu'un de ses grands défis, c'est de réinventer ce que c'est qu'une image, encouragé par le Concile des Trente.
Mais il faut dire que tout le christianisme, enfin tout le catholicisme, en tout cas, réinvente les images à cette période-là.
Absolument, et il arrive à un moment très particulier de l'histoire de l'art, à un moment où l'Église dit, il faut réinventer l'image est importante, on a besoin des artistes pour reconquérir les âmes, et à un moment où tout ça n'est pas encore codifié, pardon de le dire un peu vite, par des curés qui vont vouloir essayer de diminuer l'image et de la rendre uniquement illustrative. Donc Gréco, il arrive dans cet intervalle et là il se dit, mais moi je vais réinventer l'image. Et il arrive aussi à un moment où le maniérisme s'essouffle et il dit, mais je vais réinventer le style aussi. Il va vouloir faire régénérer la grande peinture, régénérer la Renaissance.
On va venir dans cette histoire très très intéressante et complexe de la relation de Gréco au maniérisme, évidemment, et à Michel-Ange par la même occasion. Néanmoins, dans l'exposition, j'aimerais bien que vous nous décriviez, il y a une œuvre que j'ai trouvée absolument fantastique, qui est un petit hôtel portatif, un triptyque. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il y a?
Alors c'est un objet qui est fantastique à plusieurs égards. D'abord parce qu'il a été redécouvert dans les années 30 dans les réserves du musée de la Galleria Estense à Modène. C'est un tableau qui est signé, Cher Dominicu, exactement la même formule signature que l'on trouve dans la première icône de Saint-Luc et dans l'adoration du...
Donc fait aussi à Venise ?
Alors ça, on ne sait pas exactement. Moi, je pense que c'est plutôt fait à Venise. Le support est grec, le support est crétois. Cette forme de chantourné de petit hôtel à voler, c'est typiquement crétois. Mais soit il l'a amené avec lui de Crète, il a aussi pu l'acheter sur le marché de Venise. Il a même pu le sculpter lui-même, puisque par ailleurs, on s'apercevra qu'il est aussi sculpteur à ses heures perdues. Mais surtout, ce triptyque témoigne d'un sens de la couleur, d'une compréhension de la couleur, d'une appropriation de la couleur qui là est, c'est quelque chose de nouveau. Et ça ne peut s'expliquer que par ces yeux qui boivent la couleur de Titien à Venise.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'objet, mais aussi les scènes qui s'y trouvent ?
Alors, c'est un objet qu'on présente ouvert pour pouvoir en voir toutes les facettes, mais qui doit se comprendre fermé d'abord. Donc, quand l'objet est fermé, on a à l'arrière le mont Sinaï, donc l'Ancien Testament, les tables de la loi, etc. Et à l'avant, Adam et Ève, donc la Genèse. Donc, on est dans un monde vétérotestamentaire, on est vraiment dans le monde de la loi, Adam et Ève qui sont surpris par Dieu le Père au Jardin d'Éden, et à l'arrière, les 10 commandements envoyés par Dieu. Donc, un monde de l'Ancien Testament. Quand on ouvre le premier volet, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit l'annonciation de l'ange à la Vierge. Donc, d'une certaine manière, c'est l'entrée dans le Nouveau Testament et l'arrivée de l'accomplissement des Écritures. Et puis,
Le style est comment ? Est-ce qu'on est déjà dans un style moderne, si je puis dire ?
Le style est vénitien. On voit que c'est quelqu'un qui apprend à écrire. On voit que c'est quelqu'un qui fait des lignes, d'une certaine manière. D'ailleurs, le dessin sous-jacent est très scolaire, etc. Il s'inspire de gravures, il s'inspire de peintures qu'il voit directement, et il est en train d'assimiler cette langue très nouvelle pour lui. Et une fois de plus, il a déjà 25 ans, donc il se remet en cause fondamentalement, très nouvelle pour lui de la Renaissance. Puis après, donc cette annonciation fait face au baptême du Christ. Donc on a on a l'histoire du salut qui se met en marche, et on termine par le compartiment central une fois que le triptyque est déployé. Et là, c'est le jugement dernier, la récompense du chevalier chrétien avec une scène infernale au premier plan.
Alors j'ai eu l'impression que certaines des solutions plastiques qu'il avait trouvées, il allait y revenir. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient ? Par exemple, il y a dans des éclats de feu dans le ciel qui va reprendre très avec le même jeté, si je puis dire, sauf que ça fera 1m50 au lieu de faire 5 cm. Et du coup, il y a une sorte de... C'est comme si j'ai eu la sensation que c'était une petite bombe dans sa vie qui allait continuer à l'alimenter longtemps.
Il y a effectivement un côté, réaction en chaîne chez Gréco, bombe à fragmentation avec des créations de galaxies qui peuvent se retrouver et qui bougent. Faut aussi se souvenir qu'il est peintre d'icônes, et à ce titre-là, l'icône, c'est l'habitude de reproduire des prototypes. Mais comme il veut devenir un peintre de la Renaissance, il va fusionner ces deux choses contradictoires, et il va être l'incarnation de cette contradiction, c'est-à-dire un artiste qui va briller par sa capacité d'invention et par sa capacité à faire reconnaître son style, et en même temps un artiste qui va répéter ses propres prototypes, varier ses propres prototypes, et faire que son style crée des images qui deviendront iconiques à tous les sens du terme.
Alors, il va partir de Venise, il va, je suppose, s'arrêter en route, peut-être à Modène, peut-être, je ne sais, à Florence, peut-être, ou pas ?
On ne sait pas exactement. On arrive à retracer les voyages de Gréco à travers les annotations qu'il fera plus tard, quand il sera déjà en Espagne, dans deux ouvrages qui lui ont appartenu, Les Vies de Vasari, Vasari qu'il déteste par ailleurs, et il est très vachard dans ses annotations aux Vies de Vasari, et la réédition du traité antique de Vitruve. Et à travers les analyses qui ont été faites de ces deux types de commentaires dans ces deux ouvrages, on arrive à sentir quand il a vu vraiment les choses, ou quand il en a entendu parler, ou quand parfois il est un peu gratuit dans la critique.
Oui, parce qu'il y a des apostilles, il a écrit dans les marges.
Ah, c'est furieux, il écrit partout, parfois il y a plus de textes dans les marges qu'il y en a dans l'imprimé.
Il va arriver à Rome, et là, quelle est la suite? Alors, il y a évidemment le Concile de Trente qui s'achève. Il y a la vision, j'imagine, saisissante pour un artiste de Michel-Ange.
Gréco entend parler de Michel-Ange dès Venise, puisque Michel-Ange est connu partout, diffusé par la gravure, etc. Titien est allé voir, est allé à Rome, et des Michel-Angelesques comme Salviati sont allés à Venise. Donc voilà, Michel-Ange, il attend pas d'être à Rome pour découvrir, pour entendre parler de Michel-Ange. Mais c'est quand même un choc quand il y arrive. Et autant Titien est le père chéri, le père spirituel, autant Michel-Ange, pour lui, même s'il est mort, est le frère ennemi, et le frère qu'il jalouse et qu'il veut devenir. D'autant que le contexte est très particulier, puisque face au vide de Vasari, qui prône un toscanocentrisme acharné, il y a une réaction des théoriciens de la peinture et des arts en général qui essayent de dire non, la couleur a aussi ses lettres de noblesse, l'école de Venise est aussi importante, et dès lors on va voir une situation dialectique avec les tenants de la ligne à Rome et à Florence et les tenants de la couleur à Venise. Et des théoriciens...
La couleur du Gréco, la couleur, bon, je dirais, tout au long de sa vie, en tout cas de Rome à Tolède, est une couleur maniériste ou pas? Ouais, alors, parce qu'elle me semble incroyablement d'une acidité telle.
Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut entendre couleur par deux choses différentes. La couleur, c'est la tâche. La peinture à Venise, le coloris vénitien, c'est pas tant une gamme chromatique, c'est pas tant une palette qu'une technique. La pittura macchia, c'est-à-dire qu'on construit par la couleur et non pas par le dessin dont on colorie les différentes surfaces. Donc on peint par la couleur, par la peinture posée sur la toile directement. Donc ça, c'est la couleur. Ensuite, il y a la question de la couleur comme palette. Et ça, c'est vrai, ce que la palette que va prendre Gréco, au fond, c'est la palette de Michel-Ange au plafond de la Sixtine. C'est cette palette extrêmement acide, mais cette acidité, il va la traduire techniquement à travers ce qu'il a appris à Venise, c'est-à-dire ces couleurs intenses, denses, profondes, et ça, personne ne l'a fait avant lui. Et ça va donner cette gamme incroyable.
Parce qu'une gamme, alors moi je trouve, parfois j'ai pensé à la déposition de Pontormo, à des œuvres comme cela qui ont une couleur aussi totalement surréelle, quasiment très LSD si je puis dire.
Ah, non mais absolument, et très, c'est le maniérisme, et le maniérisme ça découle de Michel-Ange, donc tout vient de Michel-Ange à ce titre-là.
Et donc lorsque l'on rentre dans l'exposition, une des premières grandes salles est une salle très étrange, il y a une série de trois tableau, Jésus chassant les marchands du temple, où on a trois périodes au fond de l'artiste. Et parfois, la couleur, et les bleus en particulier, coulent d'un personnage à l'autre, exactement comme un fleuve à l'intérieur du tableau, comme un autre motif. Et cette juxtaposition est extraordinaire parce que on y voit le chemin. C'est quasiment une cartographie du chemin personnel de Gréco.
Et c'est vraiment la preuve de son adhésion à cette école de la couleur qu'est Venise, où c'est la couleur, c'est-à-dire la matière, à entendre comme matière, qui dessine et qui conduit le pinceau. Ce n'est pas un dessin, il n'y a pas cette dictature du dessin que l'on trouve dans la tradition toscane ou dans la tradition romaine par extension. Donc lui, vraiment, il construit par la couleur, et quand la couleur dicte de dépasser, d'aller plus loin, d'exagérer, eh bien il suit la couleur, parce que pour lui, la couleur, c'est la nature, la couleur, c'est la vie, c'est le vrai, et il faut le respecter, il faut l'exprimer.
Alors cette salle est incroyable, parce qu'il y a, est-ce qu'il y a la visitation dans cette salle?
Il y a le mariage de la Vierge, dans la salle juste
après. La visitation qui est aussi tellement un tableau tellement fou. Et écoutons quelques instants ce que dit Malraux du chemin que parcourt évidemment Gréco.
Alors que ses anciens rivaux à Venise n'ont souci que d'étendre leur art, lui n'a souci que d'approfondir le sien. Dans la solitude, lentement édifié autour de son jardin brûlé, aux murs couverts de jasmin mort, il ne peignait plus, hormis les admirables portraits dont il vivait et ceux des siens, que ce qu'il ne voyait pas. Personnages du Nouveau Testament, saints et prophètes, quelques armures, des étoffes, les bouquets flamboyants de ses annonciations, et son ciel de pierre. Parfois, il jetait un coup d'œil sur les figurines de glaise suspendues à son plafond. Il avait plus grand besoin de quelques-unes de ces toiles qu'il conservait pour lutter contre elles qu'il n'avait besoin de l'univers. Son art s'achève sur une visitation. sans visage. Que la nuit fût descendue sur le monde, sa peinture ne s'en fut pas aperçue.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes en train avec Guillaume Kienz, le commissaire de la fabuleuse exposition Gréco qui se trouve en ce moment au Grand Palais. Fabuleuse, rare, que l'on attendait depuis si longtemps et que l'on ne reverra pas d'assez longtemps, je crains. Eh bien, nous sommes en train de parler évidemment de l'itinéraire inouï de ce personnage Gréco qui a inventé un langage qui n'est qu'à lui, qui ne ressemble à aucun autre et qui est une sorte de conquête spirituelle très étrange. Le conquête spirituelle, peut-être que c'est pas du tout le mot, c'est peut-être simplement la peinture qui l'intéressait. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Kienz?
Je pense que la peinture pour lui est une spiritualité et en tout cas, peintre, c'est sa profession de foi. On a essayé de faire de Gréco un mystique à partir du 19e siècle, mais c'était projeté sur lui d'abord un anachronisme parce qu'on n'entend pas mystique aujourd'hui au 19e comme on l'entendait du temps de Saint Jean de la Croix et surtout une vision un peu cliché de cette Espagne religieuse exaltée. Quand Gréco doit peindre l'exaltation, quand il doit peindre l'extase, il la peint de manière extatique, il la peint de manière exalté parce qu'il cherche un système d'équivalence plastique entre le sujet qu'il représente et la manière dont il l'exprime. Pour ce qui est de sa religion profonde, on ne saura pas, tout a été dit sur sa foi. Au fond, elle appartient qu'à lui.
Oui, enfin, je pense qu'il est, comme Matisse, religieux quand il peint.
Il est religieux quand il peint, c'est une bonne formule.
Donc peu à peu apparaît cette sorte de façon très très particulière de développer, de déployer l'espace autour des personnages de Gréco. C'est-à-dire que il me semble, et j'aimerais avoir votre façon de le regarder, Guillaume Kienz, il me semble que tout d'un coup, l'espace cesse d'être une profondeur pour devenir un plan.
Son rapport à l'espace est très particulier. L'espace à la fois n'existe pas et existe partout. Il a un côté diffragmenté qui est très compliqué à saisir et qui en fait nous renvoie à la conception qu'il avait de la nature et de la peinture comme imitation de la nature, qui est un peu la grande question que
quel
que
tableau pour vous évoquerait, avec quel tableau on pourrait décrire la nature de l'espace?
Par exemple, l'adoration des bergers de la collection Bottine, qui est une commande qu'il a au début de ces années tolédanes, 1577-1579, pour Santo Domingo
Lantigo. Vous pouvez nous la décrire?
Alors on est d'abord plongé dans la nuit, c'est normal, c'est l'adoration des bergers, et on est illuminé par une gigantesque nuée d'anges autour d'une étoile lumineuse, c'est normal, c'est l'étoile du berger. Il y a un bœuf, il y a un âne qui lève la tête et qui doit pousser son cri d'âne dans cette nuit si spéciale. Et au premier plan, un Saint Jérôme hors du récit qui fait le pont avec le spectateur d'une certaine manière, qui regarde le spectateur, qui porte une bougie, créant un autre clair-obscur dans le clair-obscur, et portant un livre sur les genoux devant lui. Il est en train d'être une sorte de témoin de la scène et de consigner cette scène dans sa Bible, de vérifier que sa traduction est bien exacte à ce qui s'est vraiment passé dans la Bible. Et là, le plan du tableau est assez renversé et renversant. L'espace arrive, mais c'est cette perspective inversée à la byzantine qu'il commence à réutiliser. L'espace arrive vers le spectateur et on est immédiatement à la fois hors du tableau et dans le tableau, parce que l'espace nous englobe d'une certaine manière.
Quand ce qui va se passer aussi, et qui est très frappant, c'est que derrière tous les personnages, les ciels vont devenir de la pierre ou du marbre. On a l'impression que tous les personnages sont entourés d'une conque qui les rapproche du visiteur.
Alors c'est toujours cette perspective inversée. Il va chercher à fermer les fonds et non pas les ouvrir pour que les figures soient plus proches de nous et pour rendre les images plus impactantes.
Quitte à ce que ceux qui les ramènent vers nous, ces sortes de coquillages qui sont derrière eux, qui sont parfois des nuages, parfois des vêtements, etc., soient d'un irréalisme total.
Alors lui, il le voit pas comme ça, par exemple. Et ça, on le sait grâce à ses annotations au Vide de Vasari. Lui, il se considère non pas comme un réaliste, mais comme un naturaliste. Il ne cherche pas à représenter la nature dans ses apparences, dans son instantanéité, parce que il est conscient que la nature, ce n'est pas une apparence. La nature a des apparences changeantes. La nature, ce n'est pas un instantané. C'est un mouvement qui dure. C'est des choses qui ont une température. C'est toute une série de choses, la nature. Et d'une certaine manière, il va avoir un rapport à la nature qui n'est pas loin de celui des impressionnistes. Il se trouve que quand j'ai préparé cette exposition, parallèlement au Kimball Museum, nous ouvrions une exposition sur le dernier Monet. Et au fond, il a un rapport à la nature qui est assez proche de celui de Claude Monet. Il n'y a rien qui ressemble moins à un nymphéa que ces grands nymphéas que peint Claude Monet. Ouais. Et en même temps, qui est-ce qui a mieux exprimé ce que c'était qu'un nymphéa que Claude Monet dans ses nymphéas? Eh bien, Gréco, c'est la même chose. La nature, pour lui, sa peinture doit imiter la nature, mais elle ne doit pas imiter la nature bêtement, elle doit imiter la nature dans l'impression que la nature nous donne. Elle doit exprimer la nature.
Alors, la nature donne l'impression d'être une nature naturante, une sorte d'une nature pleine d'une énergie transformatrice. Les tableaux sont jamais stabilisés.
Absolument. La nature est une force en mouvement, est une énergie qui se transmet, c'est une temporalité qui nous englobe, c'est magmatique, c'est absolument ça la nature pour Gréco, et c'est ce qu'il veut rendre dans ses tableaux, et c'est pourquoi on peut aujourd'hui avoir une petite incompréhension quand il dit « je suis un peintre naturaliste », quand il dit « la peinture doit vraiment imiter la nature », mais quand il dit « la peinture doit vraiment imiter la nature », il entend « la peinture ne doit pas imiter l'art », et là c'est une critique du maniérisme.
Effectivement. Écoutons un texte qui évoque cette question de la représentation des corps, justement, Jean-Louis Schaeffer, Gréco.
Le corps est une composante de l'espace, le lieu d'une identification de sa substance. Ce n'est pas tout à fait un sujet d'expression. Nature, paysage, variation de la lumière, animalité, humanité. Le corps est ici toute une flore, une faune. En tout cas, rien de semblable à ce à quoi toute la peinture nous a habitués. Nuit épaissie que je soupçonnais déjà, à ses mains régulièrement étirées comme des nuages, ou des brumes effilochées par le vent, terre humide et feuillage frémissant, serré comme un linge mis à sécher, et dont un courant d'air agite les bras, remue d'incroyables jambes, jetant des coups de pied à des fantômes, poches, creuses et bosselles toute la surface par cette invisible main lissant les reliefs, éteignant les ombres, qui gommaient ou déplaçaient seulement avec une aisance de prestidigitateur tous ces plis d'expression. Arcades sourcilières, bouche, ventre, coups de genoux, mais surtout faisait apparaître cette lutte du drap pendu dans le vent, au-dessus d'une herbe d'un vert acide, qu'un corps d'une dimension incompréhensible essaierait de quitter, dans lequel une foule agitée ou quelque âme prodigieusement torturée, assoiffée d'une représentation de la vie, tenterait de prendre corps. Mais ce corps, justement, fait de matière inconnue, ce paysage en masse peint, ces étendues qui ressemblent à des aires de battage où la balle du blé flotte en nuages, tout cela avec le désespoir de supplication aux mains jointes, et les yeux tournant dans l'humidité du glaire, des larmes ou du foutre jaillit dans le regard aux cieux, prière et gémissement de suppliciés qu'on croit aussitôt adressés au vent, à ces battements d'ailes géantes en coton qui remuent, comme la main trouble en y ramant toute l'eau d'un bassin, chasse les poissons et les rend invisibles, laisse venir de lents mouvements d'herbe accrochés au fond, comme un geste d'adieu, un signe de bras d'une monstrueuse souplesse, dérivant dans ce bref remuement d'eau bourbeuse comme des crinières prises dans le courant tournant.
Thank you. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et je suis avec Guillaume Kienz et nous parlons de El Greco, le Greco. Et nous étions en train d'entendre ce très beau texte de Jean-Louis Schaeffer parlant de la façon dont les corps et l'environnement des corps imitent une nature totalement inventée. Est-ce que c'est juste comme mot ou non? Vous disiez tout vous naturel dans ses principes.
Ressenti, c'est ressenti. Une nature cosmique. Il y a est-ce un côté cosmique.
Est-ce qu'il y a un artiste qui à cette période-là, ressemble au Greco? Parce qu'on peut dire, au fond, des artistes très singuliers, comme Pontormo, on n'en sont pas sans relation avec Bronzino, etc. Est-ce qu'il est d'une singularité totale à l'époque?
Ben, alors, il est d'une singularité totale et d'une cohérence totale aussi. C'est-à-dire que quand il est à Venise, il ressemble à des artistes. Il ressemble à du Titien, du Bassano, du Véronèse, du Tintoret, selon ce qu'il peint et ce qu'il regarde. Quand il est à Rome, il va essayer de ressembler à Michel-Ange, il va concurrencer Venusti, il va s'intégrer dans un paysage artistique. Et quand on regarde un tableau qu'il a fait à Rome, ça paraît pas complètement délirant par rapport à la peinture qu'on faisait à Rome. C'est quand il arrive en Espagne et qu'il peut enfin déployer toutes ses ailes de peintre, si je puis dire, que là, pour le coup, il va ouvrir un monde qui n'appartiendra plus qu'à lui, et ce monde va régner sur tout. Il va créer un alpha et l'oméga. Et là, pour reprendre le titre de votre émission, l'art et la matière. L'art, son art, ça devient sa matière.
Et le départ en Espagne vient d'un insuccès romain?
Alors quand il arrive à Rome, déjà il faut imaginer que c'est un artiste qui n'a pas de réseau véritablement en Italie, qui ne parle pas correctement l'italien, donc il arrive un peu comme un jeune grec, enfin jeune, il est plus jeune que ça.
On l'a recommandé quand même.
Comme un grec à Rome, et il arrive effectivement recommandé par un autre artiste, Giulio Clovio, un croate de naissance, grand miniaturiste à l'époque, qui travaille pour le cardinal Farnèse et qui lui obtient une place dans le palais Farnèse. Et Greco va séjourner pendant 2 ans dans le palais Farnèse jusqu'à ce qu'une brouille, et on ne sait pas exactement ce qui se passe,
on dit qu'il
chasser.
Se fait virer parce qu'il est une trop mauvaise langue.
Alors, on dit qu'il se fait virer à cause de son arrogance. Giulio Mancini, mais un siècle plus tard, en 1620, explique que Greco aurait proposé de repeindre le jugement dernier de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Il n'était pas entièrement frondeur. La fresque est très critiquée, on se demande ce qu'on va en faire, elle passe à 2 doigts qu'on la détruise entièrement.
C'est le moment où elle paraît obscène au pape, non?
Exactement, on est dans un pape beaucoup plus rigoriste, etc., un pontificat beaucoup plus rigoriste, et Greco, il sent que le vent tourne, lui veut remplacer Michel-Ange d'une certaine manière, et donc il dit, mais je suis complètement d'accord avec vous, je la repeins, et je la détruis, je la repeins, et je la fais en mieux. Alors qu'il ne maîtrise pas la fresque.
Canaille, ces artistes.
Et voilà, mais ça ne plaît pas au cardinal Farnèse, qui est le neveu de celui qui a commandé le jugement dernier, qui conserve dans sa collection au Palais Farnèse une copie du jugement dernier de Michel-Ange avant ses repeints de pudeur. Donc peut-être lui est-il revenu aux oreilles qu'un de ses peintres du palais avait dit du mal du sacro-saint Michel-Ange, ça ne lui a pas plu, il a prié d'aller se trouver un autre toit.
Et donc le toit, c'est Philippe II. Pourquoi l'Espagne?
Alors, tout d'abord, il ne part pas tout de suite. Il va tenter sa chance à Rome. Mais il n'est pas connu, il ne maîtrise pas la fresque, donc impossible d'avoir des commandes publiques et de travailler des grands chantiers décoratifs. Donc, il va faire un peu de portrait, il va essayer de vivre comme ça, faire quelques tableaux malgré tout. Mais il va surtout faire une rencontre, celle de Luis Castilla, fils naturel de Diego de Castilla, doyen des chanoines de la cathédrale de Tolède, la plus importante église d'Espagne à l'époque, toujours aujourd'hui. Et Luis de Castilla va devoir lui dire, on peut imaginer, mais va en Espagne, mon père t'obtiendra des commandes à Tolède, c'est ce qui se passera. Et par ailleurs, tu te dis disciple de Titien. Philippe II, roi d'Espagne, est un grand fan de Titien. Donc,
Philippe II, c'est l'homme le plus puissant du monde à cette époque-là, on peut dire tout simplement, non?
C'est l'homme le plus puissant du monde. C'est le premier Habsbourg vraiment espagnol. Il construit ce chantier de l'Escorial qui est le plus grand chantier d'Europe à ce moment-là. Il a besoin de peintres pour le décorer. Il peine à faire venir des peintres italiens. Greco voit un Eldorado.
Philippe II, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, une partie de l'Italie,
le Nouveau Monde,
toute la côte ouest des Amériques, si je puis dire. Hein, donc c'est quand même extraordinaire avec l'or qui arrive. Et puis par sa femme, il va devenir roi d'Angleterre. Enfin, c'est un personnage totalement considérable. Et j'ai eu l'impression que il y a une histoire, et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Il présente un tableau. Un projet à Philippe II, et Philippe II dit non, ça m'intéresse pas.
Alors, il va tout d'abord peindre un tableau pour Philippe II, le fameux Songe de Philippe II. Le titre est romantique, mais peu importe. Et ce tableau va plaire. Ça représente Philippe II, le pape, le doge, peut-être Juan de Austria, qui sont en prière à l'aplomb d'un concert d'anges qui ouvre le ciel avec le IHS, le nom de Jésus.
Donc, c'est une réunion qui adore le nom de Dieu, en fait, avec un tableau en deux registres, un registre extrêmement lumineux, très jaune, et en dessous, cette foule de personnages, et Philippe II à genoux, et ça,
exactement.
Ça a du succès.
Et ça a du succès. À l'arrière, il y a aussi toute une masse de personnages. À droite, il y a une bouche infernale qui mange des
damnés. Qu'on avait déjà vu dans le petit triptyque, hein, c'est la bouche
exactement,
de l'enfer.
Exactement, ouais. Que Gréco, c'est la première fois qu'il reprend explicitement, littéralement, une de ses inventions de ses premières années en Italie, et ça s'appelait. Ça plaît parce que c'est tridentin en diable. On montre l'enfer, on montre le paradis,
Tridentin,
on montre le roi.
Pour nos auditeurs, c'est le Concile de Trente, hein, c'est les dogmes de l'Église catholique.
Exactement, c'est l'Église catholique face au protestantisme. Donc ça, ça plaît. Ça plaît aussi parce que c'est pas un tableau qui est fait pour être exposé dans un environnement public. Or, le problème que Gréco va voir avec Philippe II, c'est lorsqu'il devra peindre un tableau fait pour l'Escorial, pour la basilique de l'Escorial, c'est-à-dire un espace public. Ce tableau plaît, et donc Philippe II lui commande le Martyr de Saint-Maurice. Mais dans le Martyr de Saint-Maurice, ça se passera très mal. Gréco ne va pas comprendre quel est l'esprit de ce que veut Philippe II. Entre-temps, l'Église, les théoriciens auront commencé à codifier ce que doit être une image de la contre-réforme. Et ça contrevient avec l'image que Gréco se faisait de ce qu'était un tableau.
Parce que le martyr de Saint-Maurice, c'est Saint-Maurice légionnaire qui a derrière lui une cohorte de légionnaires qui vont tous se faire tuer plutôt que de se convertir et abandonner la nouvelle. C'est cela à peu près l'histoire. Comment est-il ce tableau physiquement? Quelle tête a-t-il?
Il est déjà très grand. Tellement grand qu'il ne voyage pas. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est dominé par un premier plan dans lequel on voit Saint-Maurice en train de convaincre ses officiers de consentir au martyr et à l'arrière le martyr de Saint-Maurice, donc des têtes qui se font trancher sur l'arrière de la composition.
C'est trop clair pour ou c'est trop abstrait,
c'est trop... C'est le contraire, c'est pas assez clair du tout. Ce que voulait Philippe II, c'était des têtes tranchées au premier plan pour bien faire comprendre aux fidèles que un martyr, c'était du sang, mais c'était ça qui était voulu, recherché, c'était la voie d'accès à la sainteté. Et Gréco, lui, il en fait un tableau qui vante le pouvoir de persuasion du discours. Il fait un tableau sur la rhétorique, sur l'oratoire, donc très humaniste dans l'esprit, qui on imagine tout à fait à quel point ça peut être un point de départ à des grandes discussions et lucubrations d'érudits, de savants, de lettrés sur le pouvoir du discours et de la rhétorique, mais c'est pas du tout ce que veut Philippe II dans son Église.
Et les autres tableaux religieux comme le partage de la tunique du Christ, vont eux avoir du succès, un succès à la cour?
Alors, ils s'adressent pas au même public. La basilique de l'Escorial, c'est vraiment une vitrine publique. C'est Philippe II veut créer la vitrine du Concile de Trente, veut respecter à la lettre ce que dit l'Église désormais théorisée.
Philippe II, c'est le grand roi catholique qui s'oppose à toute la... à toute la réforme, en fait, tout simplement. Hein.
Absolument. Dans la tradition des rois catholiques qui avaient chassé les morts d'Espagne, qui étaient ses ancêtres, lui, il va vouloir redonner la vraie foi, entre guillemets, à l'Europe qui est sous sa domination. Donc pour lui, c'est vraiment une obsession chevillée au corps. Et il va, vouloir que l'Escorial soit cette vitrine parfaite du Concile de Trente, alors que dans le cadre de l'Expolio, on s'adresse à un espace très privé, la sacristie, des chanoines donc le domaine des chanoines de la cathédrale de Tolède, qui sont tous des érudits, qui sont tous des penseurs, qui sont tous des lettrés, des collectionneurs, etc., etc. Donc on est dans un public beaucoup plus raffiné. Les enjeux sont pas du tout les mêmes que celles d'une image publique.
Alors j'aimerais bien que vous réagissiez à un texte que nous allons écouter, qui est un texte de Malraux aussi, dans lequel le point de vue de Malraux est que ce qu'a réussi à enlever... je crois, l'Espagne, si je le comprends bien, à Gréco, et donc à lui donner, c'est la possibilité d'abandonner ce qu'il y avait de romain dans son travail. Écoutons-le.
Si sa rencontre avec l'Espagne fut peut-être un hasard, son accord avec elle n'en fut pas un. N'étant pas renaissante, elle s'accordait sans peine au christianisme oriental. Mais ce que le gothique espagnol et sans doute quelques formes romanes suggérait au Gréco, n'était pas un système de forme. Ses nues grouillent de muscles. Et quel gothique a peint ou sculpté des muscles? Le raccourci, l'envol, restait son langage instinctif. Et s'il est facile de voir aujourd'hui combien son domaine et le gothique son parent, que l'on essaye d'imaginer des formes apparentées au gothique et annexant toutes les découvertes du dessin baroque qui ne soient pas les siennes. N'oublions pas que si ce jeune Crétois avait quitté Candie, colonie vénitienne pour la capitale, le peintre grec qu'il avait été n'avait pu devenir un peintre vénitien que par conversion. Et il ne devint nullement le Gréco par un retour à Byzance, mais par une seconde conversion. À l'art espagnol, il n'y en avait pas.
Cher Guillaume Gaines, je ne perds même pas une seconde pour vous rappeler que vous êtes sur l'art et la matière avec nos auditeurs, mais je voudrais pour vous faire commenter cette phrase « À l'art espagnol, il n'y en avait pas quand ». Gréco arrive en Espagne, il espère des commandes, et il y a peu d'art espagnol par rapport à l'art italien, par exemple ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des foyers artistiques en Espagne. C'est que l'Espagne, c'est constitué politiquement de manière progressive avec la reconquête des armées chrétiennes sur les armées maures, que il y a donc une acronie de l'évolution et de la pacification de l'Espagne qui entraîne une diversité de foyers avec une cour qui est itinérante, etc., etc. C'est à la fin du XVe siècle, en gros, que avec la prise de Grenade en 1492, l'Espagne est réunifiée, que va pouvoir avec la dynastie d'Habsbourg s'établir quelque chose d'un peu plus unitaire, d'un peu plus unifié. Donc quand Gréco arrive des années plus tard à Tolède, on n'en est pas encore, on n'est pas encore à un style entre guillemets national. La première tentative d'un style national, c'est la construction de l'Escorial avec ce style extrêmement dépouillé. Et la deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Espagne, c'est le monde. L'Espagne, c'est pas que l'Espagne. Et donc il y a des influences flamandes. C'est un carrefour incroyable des influences flamandes. Il y a des influences italiennes, Milan, Naples. Il y a des influences françaises aussi. Et tout cela se mélange. Et donc, l'art espagnol, d'une certaine manière, il n'y a qu'avec Philippe IV que véritablement, et Velázquez, que véritablement on va arriver dans quelque chose de plus centralisé sur Madrid et de plus unitaire stylistiquement.
Donc, il a un boulevard devant lui à ce moment-là.
Il a un boulevard, il a une citadelle, oui.
Et il a une citadelle extraordinaire, celle de Tolède, bien entendu. Et donc, à ce moment-là, j'étais frappé en écoutant un des textes de Malraux tout à l'heure, il parle de ces personnages suspendus que l'on a dans son atelier comme des sculptures dont il servirait pour peindre ou à moins qu'elles soient leur propre destin. Qu'est-ce que c'est la technique ?
Il avait dans son atelier des petites statuettes de plâtre, de cire, d'argile qui lui permettaient d'étudier la forme dans sa tridimensionnalité et d'inventer des raccourcis, d'inventer des postures. Voilà, et ça lui servait beaucoup. Et quand on voit ces tableaux, par exemple l'Agonie au Mont des Oliviers, il y a trois apôtres dans une sorte de cavité qui ont les bras enchevêtrés en dessous. Là, on est vraiment dans une. On sent la statuette. On sent qu'il a regardé, qu'il a copié une statuette et qu'il s'en est inspiré.
Que statuette qu'il fait lui-même.
Alors ça, on ne sait pas exactement, mais il peut les faire lui-même puisqu'il a été, il a eu une activité de sculpteur. On n'a qu'une seule œuvre dont on soit absolument sûr qu'elle soit de sa main.
C'est celle qui est dans l'exposition.
Absolument,
le Christ ressuscité. Et ce qui est beau, c'est que vous avez la peinture représentant le Christ exactement dans la même position. Enfin, on voit très très bien le.
On a fait un petit peu exprès.
Non, mais je le crois volontiers. Est-ce que vous avez l'impression que le Gréco, on parle toujours de son influence sur Picasso, qui effectivement adorait le Gréco plus que Velázquez. Il y a une citation assez méchante contre votre ancien ami, que vous avez donc trahi, Velázquez, dans l'exposition. Et est-ce sensible pour vous, dans l'art moderne, la présence du Gréco ?
Là, je crois qu'il n'y a aucun artiste dit ancien qui ne soit aussi présent dans l'art du XXe siècle que Gréco, et j'espère dans l'art du XXIe siècle que nous vivons en ce moment. On donne souvent le nom de modernité à la peinture de Gréco, parfois un peu gratuitement. Il faut s'interroger sur les raisons de cette modernité. Je pense que ce qui les lie surtout, c'est ce double défi, cette double question qui se pose à la fois à la fin du XVIe siècle, quand Gréco arrive sur la scène artistique, et au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle, quand les modernes et les avant-gardes arrivent à leur tour sur la scène artistique. Cette double question, c'est celle du style et de l'image. Gréco, quand il arrive en Italie, il est face à un maniérisme qui s'essouffle, à un art qui tourne en boucle d'une certaine manière, et il faut régénérer le style. Il est face à une crise de l'image, avec une église qui dit il faut réinventer l'image religieuse, il faut réinventer, donc l'image religieuse, c'est l'image, c'est la grande
Picasso
image.
Picasso est dans la même situation en 1900. Hein.
Exactement, et Picasso, il arrive après un siècle où l'académisme s'est complètement étouffé, et il arrive à un moment où on invente la photographie, donc il faut repenser le rapport à l'image. Et ce doute, cette crise métaphysico-artistique, d'une certaine manière, je crois que les artistes du tournant du 19e, 20e siècle la ressentent très fortement, et ça coïncide au moment, et c'est pas un hasard, où ils vont redécouvrir Gréco et ils vont trouver en Gréco quelqu'un qui non seulement s'est fait les mêmes questionnements, mais quelqu'un qui, dans son questionnement, comment réinventer l'image, comment réinventer le style, a suivi une même approche. Et cette approche, c'est le travail en série. C'est la variation sur le motif. Et d'une certaine manière, il y a, de manière un peu vertigineuse, et je ne crois pas du tout que ce soit gratuit, des mises en parallèle possibles entre les Saintes Victoires de Cézanne et les Marchands du Temple en série de Gréco, entre les cathédrales de Monet et ces comment dirais-je, ces tableaux.
Cézanne, c'est vrai, c'est fou la ressemblance des baigneuses et de Gréco.
Absolument. Cézanne le dit jamais lui-même, mais Vollard le dit, par exemple, sur Cézanne. On fait très rapidement le lien entre Cézanne et Gréco.
Quand on a fait une exposition extraordinaire à Rennes sur Ribera, quand on a fait Velázquez et Gréco, quelle est la suite dans la vie d'un grand commissaire d'exposition ?
Il n'y a pas vraiment de suite, parce qu'évidemment, là, rien n'est...
Il y a des désirs, peut-être.
Il y a des désirs, mais il y a surtout des hasards. Et Velázquez a été un hasard. Ribera, c'était un vrai désir parce que c'était lié à des acquisitions récentes. Gréco, c'était un hasard, une grande chance grâce au musée de Chicago et à la possibilité de faire voyager cette magnifique et majestueuse Assomption.
C'est parce que l'Assomption a été restaurée qu'elle a pu bouger que l'exposition a lieu, c'est ça?
Absolument. C'était un tableau qui n'avait pas quitté le musée depuis son acquisition en 1906. Donc c'était une chance historique, c'est une opportunité historique qui nous a permis de faire Gréco à Paris. Non, la suite, ce sera peut-être toujours avec l'Espagne, puisque je caresse un projet Murillo, mais pas le Murillo religieux, le Murillo peintre profane que nous devrions faire au Kimball dans quelques années.
Intéressant, parce que c'est aussi une question sociale en fait, qui se pose derrière Murillo et qui est une question aussi d'actualité, bien entendu, avec la réinvention du capitalisme dont tout le monde parle en ce moment comme un des grands sujets du futur.
Absolument, de même que Gréco, c'est l'histoire bouleversante d'un migrant qui cherche sa place et à s'intégrer dans la société, dans les sociétés.
Merci infiniment Guillaume Kienz, merci beaucoup.
Merci.
La matière, c'est la vie.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu le grand conservateur, le grand commissaire d'exposition Guillaume Kienz, directeur des collections européennes du Kimball Art Museum de Fort Worth au Texas et qui est le commissaire de cette exposition incroyable, l'exposition Gréco. 70 œuvres à contempler jusqu'au 10 février, merci Guillaume. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Lecture des textes, Lara Brulle. Prise de son, Benjamin Vignal. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. La semaine prochaine, nous parlerons de Robert Delaunay et l'invention du pop avec ce grand historien Pascal Rousseau. À 15h30, vous retrouverez le rayon BD de Victor Masset de l'Épinay et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.